Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation musicale. On te retrouve tout à l'heure après l'émission comme d'habitude. C'est l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui parle du territoire, les gens qui l'animent, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, vous allez voir, on va vraiment parler de ce tissu, de cette trame un petit peu du territoire associatif, entre les gens qui entreprennent. On va parler pas mal des jeunes. Aujourd'hui, on reçoit Isabelle Chistoni, coordinatrice à PLOUX. Alors, je dis l'acronyme Projets Locaux Ouverts, Utiles Collectifs, Solidaires. Comment ça va ?
Très bien, merci.
Très bien. Alors, on va découvrir un peu votre structure et comment elle fonctionne, à quoi elle sert, hein, justement, la manière dont elle est entremêlée avec le territoire local. C'est vraiment intéressant. On va d'abord écouter le Flash Info national et international et on se retrouve pour la première partie de cette émission. On va découvrir donc, bien sûr, PLOUX et puis on va découvrir aussi Isabelle un petit peu. Elle va se prêter à l'exercice auquel se prêtent tous les invités, nous parler un petit peu d'elle, sa trajectoire, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui à ce micro, si elle veut bien entendu.
Oui, je vais jouer le jeu comme tout le monde. Mmh. Je suis pas landaise. Voilà, c'est peut-être important
personne
de le dire.
Personne n'est parfait. Personne
n'est parfait, exactement. Mmh. Non, je suis arrivée dans les Landes il y a 7 ans. Mmh. Parce que c'est un territoire qui nous a plu tout de suite. Mmh. Gros coup de cœur pour ses plages, ses côtes, sa forêt. Mmh. Et puis, moi, je suis drômoise. Mmh. Je viens de Cray, donc dans le 26, à côté de l'Ardèche. Et en fait, en découvrant ce territoire, j'ai découvert aussi une pluralité de lieux, une diversité de paysages et en fait une ruralité qui me rapprochait aussi de mon enfance, avec des enjeux différents aujourd'hui et une volonté aussi de peut-être faire bouger les choses un petit peu, ou en tous les cas de travailler à quelque chose qui a du sens. Donc j'ai quitté l'éducation nationale et j'ai rejoint les rangs de PLOUX après une formation en master jeunesse, politique enfance jeunesse PEJ à Toulouse, un master sur de l'aide à la décision politique et de la concertation citoyenne, comment on fait avec les habitants, comment on fait pour prendre de bonnes décisions pour la jeunesse. Et je me suis retrouvée à PLOUX un peu par hasard et gros coup de foudre. Voilà.
Ah ouais ?
Ouais. Coup de foudre.
Mais alors c'est bien, c'est toujours intéressant, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir la trajectoire des invités, parce que j'allais dire que quelque part c'est facile d'aimer l'endroit où l'on est né, parce que c'est quelque chose qu'on connaît tout le temps, mais quelqu'un qui arrive à un autre endroit et qui l'adore tout à coup, après tout, il n'est pas moins légitime que le local, au contraire, parce que lui, du coup, il a eu l'occasion de tomber amoureux, et c'est peut-être c'est une autre trajectoire, en tout cas, moi je pense.
Ah oui, et puis... Il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a des ressemblances, en fait, entre ce que j'ai pu vivre dans la Drôme et ce qui existe ici, avec, bien évidemment, beaucoup de différences en termes de territoire, en termes de population, en termes d'histoire aussi. Moi, quand je me balade dans un village, que je rencontre des agriculteurs, quand je rencontre des citoyens, des jeunes, des habitants, finalement, on se rend compte que les problèmes sont les mêmes partout, les besoins sont les mêmes partout, les bonheurs sont les mêmes partout aussi.
Ouais, ouais,
ouais. Et donc, du coup, c'est ce qui fait sens aussi, c'est de se retrouver un petit bout de chez soi, ici. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens, quoi.
Oui, très bien. Ouais. Oui, alors voilà, on en a parlé aux antennes, mais bon, voilà, les auditeurs savent que voilà, on reçoit énormément d'associations, beaucoup de tout type, des gens qui se battent souvent pour les autres d'ailleurs, et le tissu associatif, voilà, on parlait de ruralité, il y a un énorme tissu associatif dans les Landes, voilà, on s'en rend compte tous les jours, parce qu'on reçoit des représentants, et il y a vraiment, il y a une énergie, et donc, et les jeunes, c'est l'avenir de cette énergie, là, ils la font perdurer, malgré les difficultés, bien entendu, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais... Voilà, et c'est là que vous intervenez en fait. Parce qu'on parlait un petit peu de qu'est-ce que c'est que PLOUX ? Dites-nous donc.
Alors PLOUX, ça vient de PLOC. PLOC, c'est Enzio Manzini, un chercheur qui travaillait sur l'innovation sociale et qui a tenté en fait de travailler sur la résilience des organisations. Et en fait, au final, il s'est rendu compte que les organisations, elles étaient résistantes en temps de crise parce qu'elles étaient petites. Elles étaient ancrées localement, donc ancrées localement. Elles étaient ouvertes, elles étaient en capacité de coopérer et elles étaient coordonnées, coopératives. Elles travaillaient connectées entre elles. Et donc PLOC, voilà, donc ça existe. Et puis on a des structures de l'économie sociale et solidaire, donc des associations, La Smala, Saint-Julien-en-Born, l'Écolieu Jeannot à Rion, le Café Bois Sec à L'Arbeille, l'AIA à Roquefort et la coopérative d'activité d'emploi Coaction, qui se réunissent peu après 2014, la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire, qui décide de faire quelque chose, en tous les cas, pour ce tissu associatif landais, de se regrouper et de créer PLOUX. On a rajouté quelques lettres pour que ça fasse petit contre-pied, exactement.
Bah oui, bien sûr, voilà.
Voilà, et PLOUX, ben oui, ça a trois axes. Donc c'est vraiment un réseau de structures. Donc c'est un réseau de structures de l'ESS landaise qui vise à renforcer et accompagner et à coopérer sur le territoire, à accompagner l'émergence et la création d'activités ESS et à éduquer et sensibiliser à l'ESS. Donc on est vraiment tourné sur plutôt un réseau landais. Et donc on a plein de structures aujourd'hui partout. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir qu'une seule voix, en fait, et de crier plus fort.
Voilà, c'est ça.
La ruralité.
Et oui, il y a plusieurs, on est plus fort. Et alors, on a parlé aux antennes aussi, ça c'est intéressant, c'est assez amusant de se faire cette analogie entre la biologie et cette théorie-là, parce qu'en fin de compte, ça ressemble des fois au fonctionnement d'une cellule, et ce qui fait et les définitions de ce qui fait qu'elle va survivre ou pas, ben, c'est les mêmes, l'ancrage, la coopération, l'ouverture. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des analogies des fois entre le fonctionnement d'une ville, par exemple, avec une cellule, avec des flux qui se déplacent à l'intérieur et tout. C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, s'il y a des connexions entre elles. Un neurone tout seul, ça fait pas grand-chose, mais quelques milliards, ça fait un cerveau.
Exactement. Mais c'est un peu PLOUX.
Voilà, c'est
l'idée,
ça.
L'idée, c'est de faire ensemble. Moi, je dis souvent par et pour. Oui. PLOUX existe par ses membres et pour ses membres. Il y a vraiment cette notion de faire ensemble pour nous. Donc c'est vraiment la connexion, effectivement.
Oui. Alors comment se porte le territoire landais? Voilà, c'est une question piège un peu.
Comment se porte le territoire landais? Le territoire landais, il vit les aléas que vivent d'autres territoires en France, je pense, à la fois économique, à la fois politique, mais avec beaucoup d'inquiétude. Je pense qu'il y a cette notion d'inquiétude et d'angoisse un petit peu, des élections aussi municipales qui arrivent, donc avec des postures particulières. On ne sait pas si on y va, on n'y va pas, on prend des risques, on n'en prend pas.
Oui.
Le tissu économique français aussi qui est fragilisé, donc ça crée aussi des incertitudes sur notamment les territoires ruraux où beaucoup d'associations portent des projets d'utilité sociale, d'éducation, de santé. Donc tout ça, ça crée effectivement des petites inquiétudes, voire de grosses inquiétudes pour certaines structures.
Ben oui, oui.
Mais moi, j'ai envie de dire que l'économie sociale et solidaire, c'est un modèle économique, une structuration juridique et une forme qui est basée sur sa capacité à passer au travers de ces crises. Quand on regarde les chiffres, les entreprises traditionnelles en période de crise s'effondrent, clairement, alors que le tissu associatif, lui, perdure. Et c'est ce qu'on appelle la robustesse d'Olivier Hamon. Mais c'est effectivement ça, c'est être en mesure de passer, c'est l'idée du bâton et du jonc, quoi.
Oui, c'est ça.
On
se plie au lieu de casser.
Exactement.
Et oui, voilà.
C'est ne pas. Donc voilà, et c'est la force au fait de la coopération qui va permettre ça. Et dans les Landes, il y a de la coopération. Il y a une énorme coopération.
On le constate tous les jours. Alors, quelle est la raison de cette résilience aussi? Est-ce que peut-être dans les associations, il y a une partie de bénévoles qui, du coup, ne tirent pas vers le bas, on va dire, financièrement, une association comme un employé tiré vers le bas? Enfin, c'est une manière négative de présenter les choses. Une entreprise, est-ce que ça fait aussi partie de la spécificité des associations?
Je dirais surtout que, en fait, c'est la raison. C'est le sens qu'on y donne. quand on va dans une association, on y cherche à la fois de la démocratie, de l'envie d'agir, de l'émancipation intellectuelle, on a envie de se nourrir, on ne s'investit pas, on ne s'engage pas dans une association, on ne donne pas son temps pour rien. C'est quelque chose qui nous nourrit profondément. Mmh. Et donc cet engagement-là, on le retrouvera très rarement dans le travail.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Où il n'y a pas la démocratie, où on ne te demande pas ce que tu veux faire le matin.
Si, on fait semblant. On sait faire semblant dans une entreprise.
Certaines le font, mais d'autres le beaucoup moins. Donc oui, forcément, quand on s'engage dans une association, on s'engage à cœur, à corps.
Oui, oui.
Et c'est ce qui fait que ça dure, en fait. C'est ce qui fait aussi que c'est encore plus fort.
Mmh.
Voilà, donc oui, le bénévolat, c'est cet engagement-là, mais moi, je réfléchis quand même et j'invite à réfléchir. Est-ce que on pourrait pas changer les choses et se dire que ça pourrait être ça, notre travail, en fait ?
Oui, ben oui, oui.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas vivre de ça ? On en parlait tout à l'heure.
Ben oui, bien sûr, oui, voilà. C'est sûr. Ben oui, c'est forcément, contrairement à certaines entreprises où, je sais pas, les gens vont faire un travail qui n'est pas marrant, qu'ils n'aiment pas.
Mm.
Voilà. Et un bénévole, normalement, il ne peut pas ne faire quelque chose qu'il n'aime pas.
Tout à fait.
Il s'engage dans quelque chose qui l'intéresse, qui le plaît, quoi que ce soit d'ailleurs.
Mais bien sûr.
Que ce soit du macramé ou du sport ou peu importe. Alors là, voilà, c'est vrai que forcément.
Et souvent, les gens travaillent et vont faire du bénévolat derrière.
Oui, ben en plus, c'est un sacré réemploi des retraités. Les associations,
tout à fait.
Parce que en fait, il y a énormément de retraités qui se retrouvent dans ce trou noir de tout à coup, je n'ai plus besoin de me lever le matin.
Non, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi le sens ?
Sauf qu'en fait, les retraités, quand on discute avec eux, ils sont encore plus bookés que nous, travailleurs, parce que entre les petits enfants et les engagements dans les associations, ils sont un peu débordés.
Ça.
Voilà. Bon, on va faire notre première pause, on va écouter un petit peu de musique, on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et nous voilà de retour. On a bien compris, en tout cas, l'écosystème dans lequel se place Ploux et puis sa philosophie, ses valeurs. Alors, comment est-ce que, concrètement, Ploux fonctionne ?
Ploux fonctionne grâce, par et pour ses structures, donc pour le réseau. Donc il y a aujourd'hui 2 salariés à Ploux. Donc moi je m'occupe de la coordination de l'ensemble des projets de l'association et ensuite on a une nouvelle salariée qui vient d'arriver et qui s'occupe d'un dispositif mentorat, donc un jeune, un mentor sur le territoire Cœur Hautland. Moi je m'occupe plutôt sur l'axe, on a 3 axes de travail. On a un axe de travail qui s'appelle coopérer et renforcer, où là on va tenter, on le fait vraiment, on fait de la formation, de l'accompagnement, on est guide asso, donc on permet aussi à des associations qui ont des problématiques de venir nous voir, et à partir du moment où elles adhèrent au réseau, elles peuvent bénéficier de ces temps de formation qui sont gratuits. Ça va de la gouvernance jusqu'au modèle financier, jusqu'à la gestion, jusqu'à la coopération, la maturité coopérative, des thématiques très variées. Là, on a fait quelque chose sur l'IA il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ensuite, on a un axe qui est accompagné. Donc celui-ci, il est très particulier. Il y a un gros projet, un dispositif à l'intérieur qui s'appelle l'incubateur de projet. Et donc là, on accompagne la création, l'émergence, la création de projets associatifs. Et je dirais plus globalement qui tendent à aller vers d'autres structurations juridiques, mais on est dans l'ESS pur, c'est des projets collectifs, des citoyens, des habitants qui répondent à un besoin d'utilité sociale et qui vont ensemble monter un projet. Et donc là, nous, on les accompagne sur tout le territoire, hors Saint-Yanx. Et ensuite, on accompagne 12 projets par an. Et ensuite, on a... la jeunesse, au travers de l'axe éduquer et sensibiliser. Alors je dis la jeunesse, mais la jeunesse c'est quel âge ?
Voilà.
On a quel âge quand on est jeune ?
On pourrait en discuter. Moi je suis jeune depuis longtemps.
Moi aussi je suis jeune depuis hyper longtemps.
Voilà.
Donc la jeunesse c'est très grand, c'est très varié. Donc on a les coopératives de jeunes, donc l'idée d'éduquer à l'entrepreneuriat coopératif. Et donc c'est des coopératives qui s'organisent sur les territoires dans le cadre de politique, qui s'intègrent un peu dans le cadre de politique jeunesse pour les 15-20 ans. Et on a un outil de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire qui s'appelle le QCSA, qui a été créé par les membres fondateurs. Et depuis peu, donc, ce nouveau dispositif de mentorat visant à émanciper des jeunes en milieu rural.
D'accord. Alors, bon, ça fait penser un petit peu, je parle dans les mots utilisés, un petit peu aux start-up, le côté incubateur et tout ça, ça existe des fois dans des endroits. Voilà, bon, là, ce n'est pas des start-up, c'est des associations, mais qui peuvent aussi... est-ce que c'est envisagé, possible ou prévu ou souhaité que ça devienne des entreprises aussi ? dans la philosophie du projet ?
Alors, les structures de l'ESS, elles sont régies par une loi qui est assez stricte. Mmh. Et seules, en fait, les SIC, donc les sociétés commerciales d'intérêt commun, mmh. collectif, les SCOP, mmh. les coopératives,
d'accord.
et les associations sont reconnues mmh. Comme structure de l'ESS. Après, mmh. on en a d'autres avec des agréments, etc., les mutuelles, les fondations, etc. Je vais pas faire tout le cours, mais, mmh. mais donc non, l'objectif, c'est pas que ces associations deviennent des entreprises. Mmh. Et puis, il y a une réflexion tournée aussi autour du profit mmh. Et de la lucrativité
oui.
Dans l'ESS. Mmh. C'est une lucrativité limitée. Mmh. L'objectif n'étant pas de faire de l'argent, mais bien de répondre à un besoin
oui.
et de financièrement pouvoir développer, en tous mmh. les cas, l'accompagnement nécessaire oui. pour répondre aux besoins.
Oui, la loi 1901 est jamais très loin.
La loi 1901 est toujours là.
Oui, oui, c'est sûr. C'est, ouais,
et celle de 2014, du coup, la oui. renforce encore plus.
Oui, alors cette loi de 2014 de Hamon, voilà, c'était quoi son intitulé ? C'était quoi, cette loi, d'ailleurs ?
Alors, c'est la loi qui encadre un petit peu la structuration juridique de l'ESS, mais qui est une loi qui a vraiment marqué un tournant un petit peu dans l'économie sociale et solidaire qui existe depuis la nuit des temps. Mmh. Puisque si on doit considérer un petit peu l'ESS, on dirait que c'est des projets qui sont collectifs, des projets où la lucrativité n'est pas la priorité, mais mmh. bien l'utilité, et où il y a une gouvernance, une forme de gouvernance partagée. Et donc, on peut imaginer que nos premiers fonctionnements de société, c'était un peu ça.
Ah oui, probablement.
Voilà, bah, oui. il faut aller chasser un mammouth, ouais. on y va à plusieurs, oui, toi oui. tu te mets là, etc.
Et puis il y avait du troc, forcément.
Et il y avait du troc.
Pas forcément d'argent, mais du troc. Le troc a dû apparaître avant l'argent.
Exactement, les sels, ouais. etc.
Oui, voilà.
Donc en fait, voilà, ça s'est construit. Et donc 2014, cette loi, elle structure mm. Véritablement l'ESS en disant, en fait, il n'y a que les formes juridiques de l'ESS qui sont reconnues, qui sont celles-ci. Mm. Elle permet aussi d'avoir des politiques en direction de l'économie sociale et solidaire comme mmh. De l'industrie, des transports, etc. Mmh. Et puis elle accompagne aussi une feuille de route, en tous les cas, mmh. un axe stratégique, que ce soit au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de l'Europe. Mmh. Donc voilà, donc c'est une réflexion globale, de politique aussi, globale sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Et puis elle a permis aussi de renforcer, de casser un peu les représentations sociales de l'économie sociale et solidaire, et notamment des associations
oui.
et de ce rythme de bénévoles. Beaucoup d'associations sont des entreprises, enfin mmh. ont des salariés. Alors, je dis des entreprises, c'est
oui.
une forme économique, mais,
oui, voilà, oui, oui.
mais ont des salariés, oui, ont oui. un fonctionnement de salariat, il n'y a pas très peu de bénévoles. Mmh. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le tissu associatif, ce n'est pas que des associations de sport et des associations
non,
de musique. Il y a un véritable... des personnes qui travaillent autour de ces associations.
Oui,
et voilà.
Oui bien sûr, il y a des gens qui en vivent et qui font vivre un système. Oui, voilà. Alors voilà, on a parlé de tout ce qui était... il y a le circuit court, etc. Donc, il y a certaines personnes dans votre dispositif, j'ai reconnu leur logo, comme Imagine, comme Graines de Partage, etc. Voilà, et tous ces gens qui font des choses. Il y a toujours un salarié, effectivement, et puis, mais ils interagissent entre eux, effectivement.
Exactement.
Et puis ils permettent du circuit court, notamment ici en production agricole. Par exemple, voilà, on préfère acheter ce qu'on faisait avant, c'est ce qu'on en disait hors antenne, mais il y a 100 ans, on se posait pas la question de savoir si on allait au supermarché pour acheter un canard. Hein. On se posait pas la question. Forcément, on l'avait à côté de nous. Donc, c'était le problème ne se posait pas, en fait.
Ouais.
On va faire notre deuxième pause. On va écouter le Flash Info local. Et puis, on se retrouve ensuite pour la partie suivante de l'émission. À tout de suite. Et oui, comme le disaient les Stranglers, always the sun, toujours le soleil. Il est là aujourd'hui. Il fait pas chaud, mais il est là. Il est dehors, mais dedans aussi. Voilà. Et donc, Ploux, on a parlé du qu'est-ce que c'est ça ? Voilà, justement, j'ai envie de poser la question, mais qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ?
C'est exactement pour ça.
Ouais, bah oui.
Le qu'est-ce que c'est ça ? Le ouais, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un jeu de rôle.
Mmh.
Un jeu de rôle
oui.
qui peut être drôle.
Drôle, oui,
aussi.
Ça peut être drôle aussi. Oui.
Ça peut être les deux. C'est un jeu qui a été créé en 2015 par les membres fondateurs. L'idée étant, 2014, la loi Hamon, je resitue un peu historiquement, comment on fait aujourd'hui, maintenant qu'on a l'ESS, maintenant qu'elle est un petit peu actée politiquement et en termes juridiques, aujourd'hui, comment on fait pour la transmettre, la diffuser et l'essaimer. Et donc, on est éduque-pop à fond, nous. Hein. On adore l'éducation populaire et la pédagogie active.
Oui.
Et apprendre en s'amusant. Oui. D'où le rôle
de
rôle.
Ce que font tous les enfants.
Ce que font tous les enfants. Tous les jeunes, parce que nous sommes jeunes.
Oui, oui, c'est vrai.
Ah, c'est, faut pas l'oublier. Et donc, du coup, ils ont créé ce jeu qui permet de découvrir le fonctionnement économique. Donc, quatre structures sont représentées, une multinationale, une TPE-PME, une coopérative d'activité et d'emploi et une association d'insertion par les professionnels. Et donc, ces quatre structures vont fabriquer. Les jeunes ont des passeports. Alors, je dis les jeunes, hein, parce qu'on est tous jeunes. Ont des passeports avec un personnage. Alors, tu peux te retrouver avec être directeur général de la multinationale System Paper ou juste intérimaire. Enfin, c'est très varié. Et donc, ils vont devoir se retrouver à fabriquer des sacs en papier, parce qu'on est un peu dans les Landes quand même, le papier c'est pas rien.
C'est sûr.
Et ils fabriquent vraiment des sacs en papier avec de la colle et des, des feuilles de journaux, et ils en peuvent plus à la fin. Et ceux qui sont dans la multinationale, là, ils sont là, j'en ai marre de fabriquer des sacs en papier, et c'est génial, c'est génial. Et donc, il se passe plein de choses comme dans la vraie vie, hein. On a de la délocalisation, on a des factures à payer, on a des actionnaires à payer, hein. Et donc tout ça, ça va générer des situations qui sont tout le temps, à chaque fois, différentes. Et ça permet vraiment d'identifier, en fait, le rôle de l'économie sociale et solidaire et sa différence, sa grande différence avec l'économie traditionnelle, à la fois dans le sens, mais aussi dans la gouvernance, dans le fonctionnement et dans l'organisation. Et nous, en tant qu'acteurs de l'ESS, ça nous permet aussi de nous rendre compte que ça dépend des gens aussi, parce que selon qui on met dans les associations d'insertion ou dans une CAE, ça va pas avoir le même fonctionnement. Donc il y a vraiment cette notion d'être aussi dans du collectif. Voilà.
D'accord, donc c'est un outil pédagogique, et puis c'est aussi un instrument de mesure pour vous, du coup, quelque part.
C'est avant tout un outil de sensibilisation à l'ESS et à destination plutôt des lycéens, qu'on essaye de valoriser, et puis il est sémé aujourd'hui, on le retrouve un petit peu partout en France. Et même, on est en train d'essayer de le travailler pour le faire partir un petit peu dans d'autres pays aussi qui seront intéressés. L'idée, c'est aujourd'hui, en sciences économiques et sociales, les cours sur l'économie sociale et solidaire, c'est à peine, je pense, une heure de cours par an. Voilà, donc c'est vrai que c'est dommage.
Il y a un décalage quand même.
Il y a un énorme décalage. Donc, il y a vraiment besoin de... Bon, alors, c'est bien de parler de l'offre et du marché, mais c'est bien aussi de parler de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ces outils-là, ils sont à la fois des outils qui permettent aussi de s'engager pour des jeunes. Enfin, ça peut être aussi un outil qui permet... Quand on fait un grand débat à la fin, un débat mouvant, et souvent, on demande aux jeunes qui ont 17 ans, est-ce que vous faites partie d'une association? Alors, ils sont tous là, ils savent pas trop. Puis, est-ce que vous faites du sport? Et là, t'as tout le monde qui se met à bouger. Est-ce que vous faites de la musique? Et là, d'un coup, vous êtes tous adhérents d'une association. Et là, ils réalisent. Et en fait, c'est ça, c'est prendre conscience. Donc, ce jeu, il permet de prendre conscience. Voilà.
Ah ouais, très bien. Alors, justement, alors, admettons que je sois jeune, admettons. J'ai un projet avec trois copains et tout, de monter un projet, une assoc avec une idée, un concept, etc. Et je me dis, tiens, je vais contacter Ploux. C'est quoi l'itinéraire? Qu'est-ce qui va se passer, en fait, la trajectoire, là?
Alors, ça dépend quand. Ça dépend quand on nous contacte. Et puis, ça dépend ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si on est trois, déjà, on est un collectif. Moi, je pars du principe que dès qu'on est deux, on n'est plus tout seul, on est déjà en collectif. Ensuite, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. C'est sûr que si on veut monter une boîte de bonbons et vendre des bonbons à Tire-Larigot, qu'on aura racheté à quelqu'un qui les fabrique en Chine, bon, c'est pas un projet d'utilité sociale.
Non.
C'est pas un projet d'environnement et d'écologie.
On est d'accord.
C'est pas très solidaire non plus, ça va faire mal au ventre.
Voilà.
Donc, du coup, on va pas forcément accompagner ce type de projet. Mais par contre, si on a trois jeunes qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, on aimerait monter un petit café associatif dans notre village... on va les accompagner, on va les accompagner. Donc pendant un an, ils vont être accompagnés par des accompagnements individuels, donc vraiment à hauteur du projet. Et puis ils vont avoir des temps collectifs avec toute une promo. Et ils vont monter en compétences sur des domaines nécessaires à la pérennité d'un projet. Et on va leur apporter plein d'éléments pour favoriser leur ancrage, favoriser la coopération. et mobilisés autour de leur projet pour que à la fin de l'année, durant un an d'accompagnement, ils sortent de l'incubateur et ils soient renforcés et prêts à se lancer.
Oui.
Voilà.
Ouais, ça fait penser un petit peu aux résidences des artistes qui, au bout d'un an, ils sortent de résidence, ils font leur premier concert.
Exactement.
Et ils sont lancés, ils ont pris le tremplin. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ce fonctionnement, quelque part.
C'est tout à fait ça. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'accompagner pendant un an et d'être vraiment en posture d'accompagnement, pas de faire à la place d'eux, mais bien d'être à leur côté, en soutien.
Oui.
Et même de se repositionner, nous aussi, de se réinterroger. Donc, c'est très intéressant. Ouais. Comme
donc, là, il y a du conseil, du genre stratégique. Entre guillemets, il y a aussi, je suppose, un soutien administratif, parce que en général, il y a des fois des procédures à suivre, et quand on les connaît pas, on peut avoir un peu peur de la paperasse. On est en France, il paraît
qu'on est bien en France.
Ouais.
Je le confirme.
Ouais.
oui, c'est vrai qu'il y a tout ce volet à la fois administratif et financier qui enfin, quand on parle d'association, souvent on dit qui veut rentrer au CA, et là tout de suite il n'y a aucune main qui se lève. C'est un peu ça, c'est comment on casse aussi les freins et comment on apporte des leviers à la gouvernance partagée, par exemple, comment on apporte des leviers sur la gestion financière, sur la gestion administrative. On ne va jamais faire à la place d'eux, mais bien leur donner des outils pour leur permettre d'y arriver, des formations, etc. Et surtout vulgariser aussi, vulgariser les notions de gestion comptable, c'est quand même...
Ça y est, j'ai déjà mal à la tête rien de l'entendre.
Voilà, moi j'adore. Oui. Bon, alors voilà.
Oh, mince.
Moi j'aime les tableurs Excel.
Oui. Aïe, 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 aïe.
Passion Excel. Mais du coup quand on dédramatise, en fait, on se rend compte que c'est nécessaire, parce que c'est de l'argent public parfois, et puis parce qu'on a besoin de savoir où on en est, parce qu'on a besoin d'une transparence. Mais c'est aussi un bon moyen de mesurer aussi nos actions, leur santé, et de voir si tout va bien dans notre association. Donc y a cette nécessité-là. Et effectivement, quand on rentre ou quand on monte un projet, on n'a pas forcément des compétences, mais on a toujours une autre compétence.
Mais une envie.
Mais en fait, c'est une multiplicité d'intelligence, une association.
Oui, c'est ça, oui.
Il y en a qui vont être créatifs, il y en a qui vont être comptables, il y en a qui vont être stratégiques, il y en a qui vont être politiques. Et c'est cette multiplicité de regards et de choses qui fait que la coopération, elle est efficace, que le projet prend sens et il prend vie. Et puis des fois, il manque quelques petites choses, et donc là, on va donner un petit bout à chacun.
Vous leur donnez aussi un petit peu de réseau, peut-être aussi, non ? Parce qu'on parlait de connexion, c'est important, ça.
on essaye.
Et oui, du coup, vous allez les mettre en ABT. J'ai une assoce, ils ont une compétence, ça pourra vous servir, celle-là. Ils ont besoin peut-être de ce que vous faites.
On a créé dans le réseau des outils qu'on mutualise pour favoriser plus de coopération entre les membres. Donc on a une framaliste qui permet d'échanger, d'envoyer des questions, des réponses. Donc ils peuvent... j'ai un problème de trésorerie. Est-ce que quelqu'un a un plan de trésor qui fonctionne ou ne marche pas ? Et puis là, du coup, c'est d'autres... donc c'est vraiment de l'échange entre pairs. Mais ça peut être aussi du partage d'informations, du relais, des choses comme ça. Donc il y a des outils qui existent. Et puis ça prend du temps.
Ça prend du temps, c'est sûr,
de faire tout ça. Mais j'aimerais bien le faire plus, mais j'ai... J'ai que 24 heures dans cette journée, c'est terrible.
Il paraît. Alors justement, on parlait d'argent et d'administration. Mais alors, en termes de partenaires, qui est-ce qui vous aide ? Il y a des organismes de l'État, etc.
Alors on est sur tous les échelons. Selon nos dispositifs et nos outils, on a des financements qui proviennent de l'Europe. On a des financements qui proviennent de la région, notamment la région, le service économie sociale et solidaire, mais aussi la jeunesse. On a le département des Landes qui nous soutient aussi et qui a toujours été très présent dans notre fonctionnement. L'État également, au travers de la SDJES, de la DRAGES, de la JEPBA, des fonds JEP aussi, Jeunesse Éducation Populaire, Guide Asso. Et puis après, on a des partenariats, parce que pour moi, le partenariat, c'est pas que de l'argent, c'est aussi faire bouger les choses ensemble. Et donc, c'est des financeurs, mais c'est aussi des partenaires. Donc, c'est aussi France Active, la Caisse d'Épargne, la MGEN, et j'en oublie tant d'autres.
Peut-être la CAF aussi, des fois, ils sont dans
ce problème. On a la CAF aussi.
Est-ce qu'il y a France Travail, une question comme ça aussi ?
Alors, France Travail, c'est un petit peu particulier, mais pourquoi pas, s'ils veulent venir.
Parce que des fois, c'est vrai que France Travail, par exemple, ils envoient on a reçu l'ADI, l'association. qui s'occupe d'aider les gens à lancer des entreprises. Eux, ils travaillent avec France Travail. Effectivement, il y a des gens, des fois, ils cherchent un travail, ils n'en trouvent pas forcément en adéquation avec leurs besoins, leurs envies. Et ils leur disent, mais pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat ? Bon, là, nous, on parle d'association, mais veut dire, c'est vrai que France Travail peut rediriger les gens vers d'autres choses que
vers l'entrepreneuriat salarié, vers les coopératives d'emploi et d'activité et d'emploi, ou alors, effectivement, vers le milieu associatif, la création d'activités. Alors, ça nous arrive de plus en plus, au vu du contexte, d'accompagner des demandeurs d'emploi à la création de leur premier poste au sein d'une association.
Oui, voilà.
Ce qui a été le cas, par exemple, pour un café. On a créé le café, on a accompagné le café, et là, la création d'emploi se fait derrière pour le salarié qui va gérer le café. Oui, donc, en fait, c'est des choses qui arrivent petit à petit, mais effectivement, c'est pas encore fléché, mais c'est 2014. En France, on met du temps à... à apprendre.
Aujourd'hui, on découvre votre existence.
Rendez compte.
Oui, c'est comme un petit peu comme s'il y avait une toile qui était là qu'on n'avait pas forcément vue avant. Non, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Même si nous, à la radio, on essaie un petit peu de montrer un peu toutes les associations qu'il y a, mais on ne s'en rend pas forcément toujours compte de cette trame qui existe. On a compris que vous étiez l'araignée dans la toile. Non, mais bon, je sais, c'est une image négative. Mais j'aime bien les araignées, c'est des beaux animaux aussi.
Ouais, elles ont 8 pattes en même temps, c'est pas plus mal.
Voilà, c'est votre pratique. Bon, on va faire notre dernière pause et on se retrouve ensuite pour la fin de notre émission. C'est la dernière partie de notre émission. Alors, c'était encore du soleil et la musique, évidemment, c'était le thème de la journée. Quelles sont les actualités ? Qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs, dans l'agenda chez Plux ?
Là, on est en fin d'année.
Et oui.
Donc là... on a démarré le dispositif incubateur, là, s'est lancé en septembre. Donc là, on va accompagner pendant un an une dizaine de projets. On a lancé aussi, on est plutôt sur la fin, sur les bilans de nos actions de 2025. Et donc, on lance nos perspectives 2026.
Oui.
Y a un projet un peu phare là, qui démarre, qui est le mentorat.
Oui.
Alors le mentorat, c'est un dispositif qui s'introduit un petit peu dans un dispositif plus large de l'État qui s'appelle Un jeune, une solution. On expérimente ce dispositif sur un territoire rural de Haute-Lande, donc la communauté de communes Cœur Haute-Lande. Et l'objectif, c'est d'avoir des jeunes de ce territoire-là et de les mettre en relation avec des mentors. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mentor ? Ça veut dire quoi être un mentor ? Un mentor, ça va être quelqu'un qui va pouvoir être là en soutien aux jeunes sur des questions, des problématiques à la fois d'orientation, de parcours, mais ça peut être aussi juste un soutien, en fait, des fois, pour des jeunes qui vivent en milieu rural et qui sont éloignés un peu de tout. Voilà, donc c'est comment on les raccroche. Et donc, ces mentors, ils peuvent être issus de plein d'endroits différents. Et donc, je fais un appel aux mentors. Voilà, si vous avez envie de donner une quinzaine d'heures de votre temps dans une année, c'est pas grand-chose, 15 heures dans un an, ça fait quoi ? Rien du tout.
Rien du tout, oui.
C'est rien du tout. Pour un jeune, en plus, un petit jeune landais, il faut contacter Plux.
Alors, ce serait quoi le profil d'un mentor ? Ça peut être un chef d'entreprise, là,
un agriculteur ? Ça peut être tout. Vraiment, il y a quand même un petit cadre à respecter, puisqu'on met quand même des personnes en relation avec des jeunes, mais l'idée, c'est vraiment d'être plutôt sur, en tous les cas, la volonté de pouvoir accompagner un jeune. Alors, c'est soit, je suis jeune, mais quand même un peu d'avant.
Oui.
Je suis une jeune d'avant, et donc, du coup, c'est vrai que moi, je préfère le présentiel, et les jeunes d'aujourd'hui, téléphoner, ils peuvent faire des visios, ils ont ces outils-là qui sont développés. Donc, c'est le mentorat, c'est des heures de temps passé dédié à échanger avec un jeune, mais ça peut être juste de lui dire t'es pas tout seul en fait, t'es pas tout seul, tu vas bien,
conseils,
qu'est-ce que tu fais,
plein de choses,
lui montrer d'autres choses aussi, l'inspirer, lui faire rencontrer des gens, sa structure, là où on travaille. Et ça peut être des étudiants aussi, ça peut être des étudiants qui ont un parcours médecine et qui il y a des petits jeunes qui sont à Dax là, qui veulent faire une passe, enfin pas à Dax, mais qui sont de Cœur Haute-Lande et qui au lycée ici et qui veulent faire une passe médecine. C'est comment est-ce que je fais la bonne orientation. Faut pas oublier qu'aujourd'hui l'orientation des jeunes et le parcours professionnel des jeunes, il est semé d'embûches par rapport à nous jeunes d'avant.
C'est vrai, l'offre est plus grande, c'est aussi l'avantage.
L'offre est plus grande, mais Parcoursup met beaucoup de barrières, des freins aussi, il y a beaucoup de pression aussi ce travail-là.
C'est un sujet pour eux, Parcoursup.
Et puis il y a une notion aussi économique, pouvoir partir faire ses études, c'est aussi se loger, etc. De nouvelles thématiques, alors qui ont toujours plus ou moins existé, mais qui sont devenues très ancrées aujourd'hui. Et donc, c'est comment aussi on lève tous ces freins et comment on peut aider ces jeunes. Et puis après, il y a le réseau professionnel aussi pour des jeunes qui sortent d'une alternance.
Ils n'en ont pas, forcément.
Et bah, sortent, comment on fait pour... Parce que dans les Landes, ça marche bien, le bouche à oreille aussi. Voilà.
Ouais. Alors, ce système de mentorat, tout ça, globalement, ça existe déjà pour plein de choses. Les étudiants, même au lycée, hein, on arrive dans une section, etc. Paf, on se retrouve désigné quelqu'un de l'année suivante ou un ancien, entre guillemets, et qui va prendre un peu sous son aile, qui va participer.
C'est exactement ça. Et le projet, c'est vraiment d'aider ces jeunes en territoire commune Cœur Hotland. Donc, un projet qui est un territoire qui est extrêmement rural avec 8 habitants par mètre carré quand même. Kilomètres carrés, c'est très vaste, c'est la vastitude.
Mais c'est magnifique.
On a le parc naturel régional, des villages qui font sens, une énergie débordante, mais c'est vrai qu'il y a besoin. Donc on parle beaucoup des jeunes en QPV, mais on ne parle pas des jeunes en ruralité, et pourtant les problématiques sont là. L'éloignement, la solitude, la mobilité.
L'économie.
Les formations, il y a trouver un lycée, trouver. Et puis les parents, l'éducation, c'est pas évident. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont des thématiques importantes. Et donc, si ces dispositifs-là peuvent être des solutions, des leviers, ben faut y aller, faut foncer, quoi.
Très bien.
Donc, appel au mentor, voilà. Tout ce que je peux dire.
Appel au mentor, voilà. C'est
contactez Ploux.
Voilà, il y aura un lien vers, évidemment, sur comment contacter Ploux avec le podcast. Merci beaucoup, Isabelle. C'était très chouette de vous découvrir ce que vous faites et cette synergie là que vous mettez en place entre toutes ces associations, vous aider à monter, à survivre, à se rencontrer, à se connecter, à développer le tissu local. Voilà.
Merci
beaucoup. C'était très chouette.
Merci beaucoup et merci pour l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.